Vous êtes sur RTL.
Allô maman bobo.
RTL.
Allô maman bobo.
Ça va beaucoup mieux, l'hebdo, avec Michel Simès.
Chers amis DDM du dimanche matin, bonjour, bienvenue à la petite bande de l'hebdo et Mastra, Christophe Brun, Patrice Romden. Bonjour à tous les trois.
Bonjour Michel.
Enfin. Enfin le printemps. Ces températures qui grimpent, ces jours qui s'allongent, ces robes qui... Non, ça n'a rien à voir avec la santé. Son pollen, ses rhinites allergiques, ses coryzas spasmodiques, inflammation catarrhale de la muqueuse...
Vous nous vendez du rêve, là. Hein.
C'est bien de tout cela dont vous allez nous parler, Emma.
Ben oui, je vais vous parler de tout ça et aussi du fait que c'est un peu stressant ces temps-ci d'avoir et en effet les pollens et l'ambiance Covid. C'est mon sujet du jour avec évidemment des conseils pour limiter les risques et le stress.
Patrice.
Eh bien, la semaine nationale de lutte contre le cancer s'achève. Il est encore temps d'y revenir avec le cas de Sigmund Freud. Il est mort à 83 ans. Alors, c'est un bel âge, hein, puisqu'on était en 1939. Et il est mort après un cancer de la mâchoire. Et je dirais que le père de la psychanalyse est toujours resté, comment dire, conscient de ce qui lui est arrivé.
Christophe.
Et quand j'ai vu ses fesses,
alors celle-là, non, celle-là vous l'avez pas celle-là. En fait, c'est une chanson du groupe Elmer Footbeat, si vous vous en rappelez, c'était eux qui nous parlaient. Oui, tout à fait, ouais. Qui nous parlaient de Daniela notamment. Et cette chanson s'intitule Ça ne s'invente pas quand je vois ses fesses et ce sera notre thème du jour. C'est vrai, on n'en parle jamais de fesses ici dans cette émission.
Alors
on n'y pense même pas.
Voilà, donc je me suis dit qu'on pourrait faire une exception et on va voir ce qu'il faut faire et comment le faire pour les avoir bombées, sculpturales, fermes, histoire de faire dire à toutes celles et ceux qui les regardent.
Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo.
Et on va commencer avec vous, Emma, pour sortir un peu de cette partie de l'anatomie humaine. On va remonter un petit peu.
Oui, hein.
Le printemps est associé à l'allergie au pollen et ça n'a pas loupé. On est en plein dedans.
Eh oui, ça fait même déjà quelques semaines pour certaines régions. L'Agence régionale de santé de PACA informait déjà début mars d'un risque élevé d'allergie au pollen de cyprès. Normal, hein, le printemps, c'est la saison de la floraison. Donc les pollens sont particulièrement transportés par le vent. Et ça peut donner des allergies, pas tous, hein, mais ceux de certains arbres, comme le cyprès, donc le bouleau, le platane, les pollens de graminées et ceux d'herbes aussi, comme l'ambroisie.
Petite parenthèse, langue française, connaissez-vous l'origine du mot pollen ?
Pas du tout.
Non.
Ben, ça signifie farine fine en latin. Voilà.
Ah oui, bah, d'ailleurs c'est vrai que plus les grains de pollen d'une plante sont petits, plus ils peuvent pénétrer dans nos voies aériennes et entraîner les allergies.
Oui, en France on estime que 20% de la population est allergique au pollen, une personne sur cinq donc qui connaît bien ces symptômes, hein, le nez bouché, les yeux qui piquent et qui démangent, le nez qui coule, les éternuements, c'est ce qu'on appelle la rhinite allergique.
Ou le coryza spasmodique, je vous l'ai dit tout à l'heure, alors, ça c'est un terme un peu plus scientifique. L'allergie au pollen peut aussi provoquer de l'asthme allergique, cette maladie inflammatoire des bronches qui se manifeste par une sensation d'oppression dans la poitrine. La respiration est sifflante, surtout quand on expire, on tousse. Globalement, bref, on a une difficulté à respirer. Alors c'est une maladie à prendre très au sérieux. Et justement, c'est un peu effrayant aussi en ce moment, en temps de Covid, Emma.
Oui, si on reprend les différents symptômes dont on a parlé, il y a la toux, les maux de gorge, la conjonctivite. Ajouté à ça, la fatigue, la difficulté à respirer et la perte de l'odorat et du goût, ça vous fait pas penser à un virus dont on parle un peu trop, peut-être même depuis à peu près un an. Voilà, ces points communs, ça peut vite devenir angoissant, mais il faut faire la part des choses. Si vous ne sentez plus rien, mais que vous avez le nez bouché, c'est normal. Dans la Covid, la perte du goût et de l'odorat survient brutalement, même si le nez est dégagé. Autre élément, l'allergie ne provoque ni fièvre, ni courbature, alors que la Covid, oui. Et enfin, si vous savez que vous êtes sujet à l'allergie saisonnière, il est assez probable que cette allergie revienne et dans ce cas, donc, vous reconnaîtrez vos symptômes.
Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux personnes allergiques ?
Alors, prenez un papier et un crayon parce que tout à l'heure, je vais vous suggérer des sites et numéros de téléphone à noter. De manière générale, à la maison, il est conseillé de se rincer les cheveux le soir, d'aérer son logement, alors plutôt tôt le matin ou tard le soir parce qu'en journée, c'est là que les pollens circulent le plus, d'adapter sa pratique pratiques sportives et ses activités selon la situation polynique. Pour ça, c'est à ce moment-là que le papier et le crayon sont utiles. Vous pouvez télécharger l'appli Alerte Pollen au pluriel ou vous créez un bulletin d'alerte personnalisé sur le site pollen.fr, pollen au pluriel. Et si vous avez des questions, je vous suggère aussi le numéro vert de l'association Asthme et Allergie. C'est le 0800 19 20 21, 0800 19 20 21.
Et par rapport à la situation sanitaire et au Covid?
Alors un seul conseil, c'est de continuer à suivre votre traitement si vous en avez un. Surtout n'arrêtez pas, parce que c'est le meilleur moyen de contrôler un asthme, me disait le docteur Sophie Silcret-Grieux, qui est allergologue. Donc on poursuit ses traitements et on peut se faire vacciner aussi hein, si on est allergique au pollen, il n'y a pas de souci. C'est en cas d'allergie médicamenteuse que c'est plus problématique et que la question se pose. Vous l'aborderez d'ailleurs avec votre médecin, à qui il ne faut pas hésiter à poser vos questions et émettre vos doutes.
Je rajoutais aussi un petit conseil pour ceux qui vont faire de la marche nordique ou de la course à pied et qui vont en forêt. Pour éviter les effets du pollen, on peut se mouiller la tête ou la casquette. Voilà, c'est un truc que se donnent les coureurs. Pour éviter que ça colle aux cheveux. Et que si ça colle éventuellement, l'humidité annule l'effet de la pollinisation.
Ça les fait tomber.
Ouais. Voilà.
D'accord. Mais en même temps, si vous faites du sport et que vous transpirez et que vous avez du pollen sur le front, ça tombe sur les yeux.
Oui, mais
faut faire attention à ça.
Tête mouillée et casquette mouillée, ouais. Ça marche assez bien. Je le sais parce que je suis allergique et ça marche plutôt bien sur moi.
Oui,
et
puis c'est pas les cheveux qui vous embarrassent. Oui,
Patrick. Il y avait longtemps. C'est exactement ce que j'allais dire. Il faut avoir des cheveux.
C'est docteur Madeleine Epstein, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes allergologue. Alors, il y a une question aujourd'hui qui se pose à propos de la vaccination. Les allergiques, en général, y compris ceux qui ont le rhume des foins, sont très inquiets à l'idée de se faire vacciner parce qu'on a décrit des cas au début, notamment en Angleterre et aux États-Unis, de ce qu'on appelle la crise d'anaphylaxie, c'est-à-dire des allergies très graves. On peut les rassurer ?
Oui, bien sûr, on peut les rassurer. Effectivement, il y a eu une espèce de panique au départ parce qu'il y a eu au départ deux cas rapportés d'anaphylaxie dont on ne sait pas trop d'ailleurs si elles étaient sévères et à quoi elles étaient dues. Ça crée un emballement médiatique et puis qui se dégonfle petit à petit parce que finalement, avec beaucoup plus de recul, on s'aperçoit que le nombre de réactions, le taux de réaction au vaccin, finalement, il dépasse pas celui des autres vaccins. Aux USA, où ils ont plusieurs millions de vaccinés, finalement, pour le vaccin Pfizer, on a à peu près 4 cas de réaction anaphylactique sévère pour 1 million de personnes vaccinées, et pour le vaccin Moderna, c'est 2,5 cas pour 1 million de personnes vaccinées.
D'accord, donc on peut effectivement être rassuré, quoi.
Et quand on regarde les taux de réaction anaphylactique avec tous les autres vaccins, c'est cet ordre de choses, donc c'est pas pire.
Très bien. Emma.
Est-ce que le masque que l'on porte tous depuis un an limite les symptômes pour les personnes allergiques au pollen ?
Ça, très clairement, oui, ça a été dit. Finalement, on a même dit en fin de saison pollinique l'année dernière, conseillons pour les pollens à nos patients de porter le masque. Si, bien sûr, ça limite la pénétration des particules dans les voies respiratoires. Donc forcément, c'est une bonne chose. Hein. Ça limite tout. C'est bien. Il y a beaucoup de patients qui ont été mieux l'année dernière parce qu'ils étaient confinés et puis aussi parce qu'ils portaient le masque.
Christophe.
Est-ce que, alors je vous dis ça parce que c'est mon cas, j'étais très allergique, très je pose la question, est-ce qu'en vieillissant, on peut vérifier que les allergies diminuent, qu'on est moins sensible, etc., etc.
Alors, c'est très aléatoire et c'est imprévisible. Il y a beaucoup de gens, c'était la règle dans le temps, hein. il y a 30-40 ans, on disait, vous avez le rhume des foins à 20 ans, puis à 40 ans, vous ne l'aurez plus. Ouais. On disait que c'était à cause du vieillissement du système immunitaire et puis finalement on vieillit moins et donc on peut être allergique plus longtemps. Alors il y a des gens effectivement chez qui ça disparaît vers l'âge de 40-50 ans. Il y a des gens chez qui ça apparaît. Hein. Moi mon record c'est 75 ans. J'ai une personne qui a démarré un rhume des foins à 75 ans. Donc en fait toutes les évolutions sont possibles dans tous les sens. Début arrêt précoce, début arrêt tardif ou bien début précoce et malheureusement pas d'arrêt et on n'a pas de marqueur pour savoir comment ça va évoluer.
Et je peux vous dire que je suis un très bon marqueur, moi, parce que j'ai été très embêté quand j'étais étudiant en médecine, parce que c'est toujours au moment des concours, bien sûr, que...
Mais oui,
que,
le problème, c'est les examens, bien
c'est
sûr.
C'est les examens, et qu'à l'époque, je prenais de la polaramine, qui, vous le savez, est un hypnotique extraordinaire, qui vous fait dormir.
Ça fait bien dormir.
Ça faisait dormir pendant les examens, c'est quand même, c'était super. Et aujourd'hui, que j'ai 63 ans, j'ai très, très, très peu de symptômes au moment du printemps. Patrice.
Alors, je lisais, je crois que c'est sur le site de l'Institut Pasteur. Pasteur que les gens mettent en moyenne 7 ans avant de consulter et de s'apercevoir qu'ils sont allergiques.
Ouais, c'est une réalité, ça ? Un point important.
C'est le délai moyen. C'est ce qu'on appelle l'errance diagnostique. Mais je pense que c'est en train de diminuer parce qu'il y a quand même une prise de conscience et on a quand même plus de gens qui viennent nous voir avec des suspicions d'allergie qu'on peut ou non confirmer d'ailleurs.
Merci beaucoup docteur Epstein d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes allergologue et alors justement par rapport à ce que vient de dire Patrice, ce qui est fou aussi c'est qu'il y a des gens qui sont allergiques, qui font les mêmes symptômes tous les ans, à la même période et qui ne pensent pas à l'allergie. Ils ont exactement les mêmes symptômes. Donc, si vous nous écoutez, que vous avez le nez qui coule, que vous éternuez, que ça coule comme de l'eau, que vous avez les yeux qui démangent et que vous êtes allergique, ne cherchez pas. C'est un rhume des foins. Reprenez votre traitement antihistaminique ou allez voir un allergologue pour faire une désensibilisation. C'est Emma, vous voulez dire un truc ?
Non, je voulais dire que tout à l'heure, j'allais dire les yeux qui grattent et vous m'avez reprise et c'est bien les yeux qui démangent, c'est ça ?
Bah oui, c'est ça.
C'est du français aussi dans cette émission.
Patrice s'est passé au travers.
Je me permets de temps en temps. On se retrouve donc dans la partie 2 de l'émission avec notre historien de la médecine qui va nous parler du plus célèbre psychanalyste au monde, Sigmund Freud.
RTL,
ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo. RTL,
ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo.
Alors Patrice, je rêve où il n'y a pas de musique pourrie aujourd'hui.
Écoutez, j'ai préféré vous épargner ça. Il fallait trouver une musique en rapport avec Freud ou la psychanalyse. J'ai eu un peu de mal.
Alors on rappelle donc que c'est le père de la psychanalyse et pour lui, si tout a parfaitement fonctionné dans la tête, ça a été plus compliqué pour le reste de l'organisme.
Est-ce que vous imaginez qu'il a subi, dites-moi combien d'opérations a subi Freud ?
Je ne sais pas comment on dit en médecine, dites 33.
Oui, le mec, il est fort. Il surveille ce que j'ai écrit. 33 opérations, ouais. L'artère carotide externe ligaturée. Les glandes sous-maxillaires ligaturées aussi. La mâchoire, ablation. Le palais, ablation partielle et ainsi de suite. Freud fut contraint de porter une prothèse. Elle reliait sa bouche et sa cavité nasale. Et ça l'empêchait évidemment de mastiquer, ça le gênait pour parler. Et il y a même donné un surnom à cette prothèse, le monstre.
Ouais, tout ça à cause d'un cancer de la mâchoire.
Oui, alors c'est en 1923, alors qu'il a 67 ans, qu'il endure les premiers signes de la maladie. Et alors la nouvelle se propage. Le conseil communal de Vienne, capitale de l'Autriche, décide de lui décerner le titre de citoyen d'honneur de la ville. Sauf que c'est un titre qu'on décerne habituellement aux gens qui ont 70 ans. Donc Freud le prend mal. Certains doivent avoir pensé que mon prochain anniversaire, le 68e, pourrait être le dernier, dit-il à l'époque. Et c'est vrai que la ville de Vienne aurait pu prendre son temps, puisque Freud a encore en fait à l'époque 15 ans à vivre.
Et il se remet au travail, il écrit, il consulte, il analyse. Quand il est distingué, comme il est fatigué, il s'en remet à sa fille Anna. C'est elle qui lira le discours de son père lorsque lui sera décerné le prix Goethe en 1930.
Et arrive 1938, l'année de l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne. Alors comme il est juif et psychanalyste, Freud a au moins deux raisons de se méfier de l'avenir. Il finit par obtenir l'autorisation d'aller à Londres, mais au moment de récupérer son visa de sortie, les autorités l'obligent à signer un document dans lequel il reconnaît que les autorités allemandes et la Gestapo en particulier l'ont traité, et là je mets les guillemets, avec tout le respect et la considération due à sa réputation scientifique. Alors évidemment, il signe et il ajoute même quelques mots. Je puis cordialement recommander la Gestapo à tous. Preuve que le contexte dramatique n'altère en rien son humour, ce baromètre de la santé mentale.
Et il rejoint sa famille à Londres où il meurt en 1939.
Et alors il meurt dans les bras de Max Schur, son médecin personnel qu'il a suivi en Angleterre. Un jour il lui dit, mon cher Max, vous vous souvenez de notre première conversation, vous m'aviez promis de ne pas m'abandonner lorsque mon serait venu. Max Schur acquiesce, il a compris, il fait une première injection sous-cutanée de morphine. Freud s'en trouve soulagé et s'endort. Et puis 12 heures plus tard, Max Schur répète l'injection. Freud est mort, j'allais dire, en toute conscience.
Merci Patrice, on va continuer avec Freud, pas avec son cancer de la mâchoire, mais le côté psychanalyse avec un livre qui sort « Jamais sans mon psy » chez Hugo Éditions, écrit par Pascal Delannoy et Minou Azoulay que nous avons en ligne. Bonjour Minou.
Bonjour.
Alors vous avez donc écrit un livre sur la psy en général. On va garder juste les trois lettres parce qu'il y a tellement de choses qui arrivent après entre la psychanalyse, la psychothérapie, la psychiatre, etc. On s'y perd. Est-ce que finalement, aujourd'hui en France, les gens savent à qui s'adresser, à quel spécialiste s'adresser ou c'est au pif ?
Non, je crois qu'ils commencent à savoir à qui s'adresser parce que ça fait quand même un moment que tout s'est installé, qu'on leur explique plusieurs fois et surtout en ces temps de pandémie qu'il vaut mieux voir. Et puis, ça fonctionne beaucoup avec le bouche à oreille. Donc, ils savent tout de suite où ils vont.
Patrice.
Précisément, quelle est la différence entre le psychologue, le psychiatre, le psychanalyste ? Qui je vais voir quand j'ai quoi ?
Alors, le psychiatre, c'est un médecin qui fait une spécialité comme d'autres font une autre spécialité. Il est psychiatre, il est médecin, il est remboursé, vous êtes remboursé en cas de consultation. Il y a des psychiatres qui restent psychiatres, c'est-à-dire médecins, et d'autres qui ajoutent des séances de psychanalyse et qui ont une autre écoute que celle du psychiatre habituel. Le psychologue clinicien est celui qui a un diplôme d'État et qui a une formation clinique après son diplôme d'État, c'est-à-dire la pratique avec les patients. Le psychanalyste, il n'y a pas de diplôme. Ce sont des chapelles qui ont été créées après Freud, et notamment par Marie Bonaparte, qui a créé la SPP, la Société Psychanalytique de Paris. Et les psychanalystes sont ceux qui, disons, sont complètement voués à l'écoute de leurs patients, sans médicaments, sans recettes a priori.
J'écoutais Caroline Dublanche il y a quelques jours sur RTL le soir, et elle disait que finalement aujourd'hui la psy est partout, et que ça traduit une volonté de chacun d'entre nous de dompter son propre psychisme, ce qui est perdu d'avance. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors écoutez, Caroline Dublanche, nous l'avons justement longuement interviewée dans notre livre, et elle n'a pas tort. Dompter son psychisme, c'est plutôt apprendre à se connaître, savoir pourquoi ces démons sont en nous, pour savoir le pourquoi du comment, c'est-à-dire pourquoi on agit de telle manière à tel moment, c'est qu'il y a une histoire derrière. Tous les gestes sont spontanés, mais il y a des gestes inconscients dont on ne se rend même pas compte. Mais c'est d'abord apprendre à se connaître et à livrer quelque chose de soi pour s'alléger d'un fardeau.
Emma.
Vous avez vu le succès de la série En Thérapie qui est diffusée sur Arte. Je me demandais deux choses. Est-ce que d'après vous, d'abord, c'est une bonne chose et est-ce que c'est réaliste ?
Alors, réaliste, je ne peux pas dire que je ne suis pas psychanalyste, mais...
vous êtes peut-être patiente.
Voilà, patiente, oui, je l'ai été. Non, mais je trouve qu'elle est très bien faite parce que c'est une fiction, ce n'est pas une leçon de psychanalyse, donc on ne peut pas dire que c'est une bonne série psychanalytique. C'est une très bonne fiction basée sur la psychanalyse, c'est-à-dire sur l'échange et l'écoute de soi. Et on suit les histoires de ces gens. Je trouve, bon, voilà, le psy, j'ai rarement vu des psys dire qu'ils désirent leur patient. Il y en a. Mais, non, mais elle est très.
Ils le disent pas, ils passent à l'acte.
Oui, il y en a qui passent à l'acte. Michel Rocard avait visé sa psychanalyste.
Minou, vous avez donc mené une enquête très très fouillée avec Pascal Delannoy. Ça a duré plusieurs mois. Vous avez interviewé des psys, vous avez interviewé des patients pour essayer de clarifier un peu ce maquis avec les vrais professionnels et puis les charlatans, parce qu'il y en a pas mal. Hein. On sait que les sectes passent beaucoup par la santé mentale et par les psys ou faux psys pour pouvoir recruter des gens. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre enquête ?
Ce qui m'a le plus marqué, c'est que la psychanalyse est encore très présente, que tout le monde s'intéresse à la psychologie et que ça fait avancer. Je veux dire, Freud, il a inventé quelque chose qui est de l'ordre de la pensée profonde, et je trouve qu'aujourd'hui, mis à part les charlatans, parce qu'il y en a beaucoup sous divers termes, c'est-à-dire développement personnel, machin, tout, enfin, il y a plein de mots, il y en a encore plus que psychologue, psychanalyste et psychothérapeute, mais je trouve qu'on reste au cœur de l'humain. Voilà, ça permet de rester au cœur de l'humain. Tout ne peut pas se résoudre dans un cabinet, mais tout peut s'interroger. Et c'est ça qui est intéressant.
Merci beaucoup, Minou. Emma, vous avez vu un pied déjà ou pas?
Oui.
Très bien. Christophe?
Oui.
Pourquoi
Non, parce que je sais plus quelle discipline précisément c'était.
Non, mais psy, oui. PSY.
Oui, tout à fait.
Oui, Patrice?
Jamais.
Jamais, Patrice?
Jamais.
Ben, vous devriez y aller.
Et vous, Michel?
Et moi, oui. Et moi, oui. Moi aussi, je suis allé voir...
Ça va mieux?
Voir ouais. Lui, va mieux. Vu le prix de la consulte, il va beaucoup mieux.
C'est exactement ce que j'allais dire. Il me tue.
Merci. Merci, Minou. Je rappelle que vous êtes l'auteur avec Pascal Delannoy et Minou Azoulay pour le livre « Jamais sans mon psy » chez Hugo Édition. Merci beaucoup, Minou, d'avoir répondu à nos questions.
Merci et bonne journée.
Merci beaucoup. Un petit mot, une petite brève.
Moi, j'ai un mot piège. Ah ben, non, allez-y, Patrice, je vous en prie.
Non, mais parce que vous connaissez les brèves de comptoir. Il y a les brèves de Covid, précisément. Tout récemment, dans le Bas-Rhin, dans la région de Strasbourg, il y a un gars qui s'est fait arrêter, flashé à 191 km/h.
C'est un peu vite.
Il a 88 ans. Vous savez ce qu'il a dit aux gendarmes?
Non.
J'avais rendez-vous pour aller faire le vaccin. J'avais peur d'être en retard. Ça n'a pas marché. Hein. Il y est allé au rendez-vous, mais à pied. Parce qu'ils lui ont retiré le permis.
Voilà. Petite brève,
Mot. Oui, j'ai un mot qui est un mot piège, en fait. Qu'est-ce que l'astraphobie?
Oula. La peur des astres. Et non, justement, le piège.
Voilà. Ben non,
c'est la peur du vaccin.
AstraZeneca, du tout.
Rien à voir. Non, pas du tout. L'astraphobie, alors, ça fait référence aux astres ou aux étoiles éventuellement, mais pas du tout. C'est la phobie qui se déclenche lorsqu'un orage se lève ou qu'un tonnerre gronde.
Ah.
Donc c'est l'orage ou le tonnerre, et non pas les astres ou les étoiles.
Ça me fait penser à une blague. Ouais,
ça va à l'encontre de ceux qui aiment la tempête. Emma.
Elle revient souvent.
On l'a, la blague ou pas?
Non,
pour la dernière émission.
C'est impossible. On la racontera le jour où on se fera virer.
Voilà.
Vous vous souvenez de la campagne Un verre, ça va, trois verres, bonjour les dégâts?
Ouais.
À votre avis, de quand elle date?
20 ans, 25 ans.
Je veux une date parce que je ne peux pas
93.
Faire le calcul. Pas cap.
83.
Oh, pas mal. 1984. La campagne avait été produite par le Comité français d'éducation à la santé. Il y avait les affiches qui étaient illustrées par Cabu et les vidéos. Vous pouvez les voir d'ailleurs sur le site de l'INA. Et je rappelle qu'aujourd'hui, les recommandations ont changé. Le slogan, c'est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours.
Oh, ah ouais, c'est formidable. Et on se retrouve dans quelques instants pour la partie 3, la partie récré avec le jeu. Et avec le jeu, avec un auditeur qui va gagner un truc vachement bien, vous allez voir.
Michel Simès sur RTL, ça va beaucoup mieux. L'hebdo. Michel Simès sur RTL, ça va beaucoup mieux. L'hebdo.
Et je vous rappelle que nous sommes partenaires avec le magazine Dr Good qui est en kiosque actuellement avec en couverture Soulager vite maux de tête et migraines pour tous ceux qui ont mal à la tête. Et puis une double page sur les acouphènes. On parle aussi de l'apnée du sommeil en 10 questions et on s'intéresse au Covid long. Les personnes qui ont eu le Covid et dont les suites sont handicapantes. Tout ça c'est dans le magazine Dr Good que vous trouvez en kiosque. En ce moment, c'est l'heure du jeu, les amis.
Qu'est-ce qu'on gagne?
Alors, qu'est-ce qu'on va gagner? Eh bien, on va gagner. D'ailleurs, je vais d'abord prendre notre auditeur pour lui dire. Guillaume, bonjour.
Bonjour.
Vous avez 37 ans, vous êtes consultant en politique publique, vous vivez à Paris et j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous êtes maladroit ou est-ce que vous êtes cascadeur? Vous avez été plâtré 8 fois dans votre vie.
Ah oui, quand même.
Un peu des deux et un peu fragile peut-être, je sais pas, mais un petit peu des deux en tout cas, je pense.
Et vous avez les coups tordus. Les coudes tordus.
Oui, bah, suite à des accidents de vélo, mais les coudes ne se sont pas remis très droit.
Ah, alors nous allons vous offrir c'est notre cadeau préféré, les amis.
Ouais, attention, dites-le bien.
Alors, c'est le Juice Expert de Magimix, un extracteur de jus. Ah, voilà, d'accord. Ça c'est un truc qui nous plaît beaucoup. Ça extrait le meilleur des fruits et des légumes crus ou cuits, et ça vous permet de faire des jus frais, des laits végétaux, le Juice Expert. Des coulis, des smoothies, donc il y a plus de vitamines et plus d'antioxydants. Donc vous gagnerez ça, mon cher Guillaume, si vous répondez bien à la question. Alors je vous raconte déjà. L'histoire que je vais vous raconter se passe au début du mois de mars dans le sud de l'Inde. Un homme sort de chez lui, enfourche sa moto, prend la route et finit dans le décor. Il est transporté dans un état critique à l'hôpital où les médecins vont constater son décès. Arrive alors le moment de l'autopsie, les médecins sont réunis autour de la table, on amène le corps et la stupeur. Que se passe-t-il? 3 versions, l'une est bonne, les 2 autres fantaisistes, version Emma.
Cher Guillaume, ce type avait un tatouage géant dans le dos. En fait, il s'agissait sur ce tatouage des plans de la prison de Bombay, ouais, dont il s'avérera qu'il s'était échappé quelques mois plus tôt. Il était recherché par toutes les polices du pays. Comme quoi, et là, tous les fans de la série Prison Break ne vont pas démentir, il arrive que la réalité rejoigne, voire dépasse la fiction.
Bien version Christophe.
Alors, Guillaume, en fait, en ouvrant le cadavre, les médecins découvrent des bijoux en or que visiblement la victime avait avalé.
C'est ça.
On n'a jamais su si le gars se servait de son corps comme d'un coffre-fort ou s'il souffrait de la maladie de Pica. Vous savez, c'est les gens qui souffrent de cette maladie. Ils avalent tout un tas de choses non comestibles, des morceaux de pneus, des clous, des fourchettes. Enfin bon, lui, il aurait mangé des bijoux. Ce qui est sûr, c'est que la famille n'a pas encore pu récupérer les bijoux parce que les autorités doivent vérifier qu'ils ne proviennent pas d'un vol, en fait.
Bien évidemment. Voilà. Et la version de Patrice ?
Eh bien, en fait, au moment où commence l'autopsie, l'un des médecins s'interrompt et dit un truc. Attendez, il me semble avoir vu le corps bouger. Alors, toute l'équipe médicale se penche sur le corps pour constater qu'en fait, eh bien, le mort est toujours vivant. Il est immédiatement transféré dans un autre hôpital, d'où l'on apprendra par la suite qu'il se remet lentement, mais sûrement, de son accident.
Et voilà. Mais ils n'ont pas d'électrocardiogramme, ils n'ont pas de scope, ils ont... Vous êtes sûr que ce sont des médecins ?
C'est ma version, en tout cas, Michel.
Bon, alors, mon cher Guillaume, je vous rappelle que vous avez trois versions. La prison de Bombay sur un tatouage pour Emma, ouais. La maladie de Pica et les bijoux de famille avalés pour Christophe, et la version de Patrice, le mort n'était pas mort.
Alors
Je pense que c'est le mort qui n'était pas mort. Je vais prendre la version de Patrice.
Et voilà comment on apporte un extracteur de jus à la maison. Voilà.
Super.
Ouais, Patrice.
Le motard était bel et bien vivant. Alors en fait, il a été déclaré mort dans une clinique privée où il avait été transféré juste après l'accident. Et c'est ensuite à l'hôpital public, au moment de l'examen post-mortem, qu'il a donné un signe de vie. Et alors là, moi je vous demande d'imaginer le type à qui il reste, on va dire, un zeste de conscience et qui entend les médecins dire « Bon, ben voilà, on va prendre les ciseaux, on va l'ouvrir. » et qui réussit au prix d'un effort surhumain à bouger le petit doigt, pour signifier « Non, 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 mon heure n'est pas venue. » Alors, la clinique privée a reconnu avoir fait preuve, alors je cite, « d'un mauvais jugement. » Et la famille a porté plainte.
C'est un aléa.
Négligence médicale. Mauvais jugement, vous
formidable.
Imaginez.
Bon, Guillaume, alors, vous avez gagné donc ce Juice Expert de Magimix, hein, cet extracteur de jus qui va pouvoir vous faire des smoothies et des jus frais. Bravo. Et puis faites attention, ne tombez pas aussi souvent, Guillaume.
Je serai.
Ok, merci beaucoup d'avoir participé. Et maintenant, on va passer à une histoire de sport.
Ça va beaucoup mieux, l'hebdo.
Histoire de sport.
Alors, mon cher Christophe, ouais, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Francesca Jones ?
Exactement, elle ne dispose en fait que de 4 doigts à chaque main, 3 orteils au pied droit et 4 au gauche. Elle se nomme donc Francesca Jones, elle est anglaise de naissance et elle est atteinte d'un rare syndrome qui s'appelle, attention, Michel, vous pouvez le dire ou je le dis ? Allez-y,
oui, l'électrodactylie dysplasie ectodermique de fente labio-palatine, en gros CEEC.
Exactement, donc c'est un drôle de syndrome. Donc elle a bien évidemment eu droit au discours des médecins qui, dès son plus jeune âge, lui ont tous dit qu'elle n'arriverait jamais à vivre de sa passion, le tennis.
Oui, elle a continué à jouer quand même.
Et elle a continué, attendez, elle a fait même mieux que ça. Elle a à peine 10 ans quand elle quitte l'Angleterre pour embrasser sa formation de jeune espoir à Barcelone, à l'Académie Sanchez Casal de tennis. Elle se retrouve en famille d'accueil, elle ne voyait ses parents que de temps en temps le week-end. Elle subit tant d'opérations pour ses doigts qu'elle avoue ne plus les compter. Et elle finit par déclarer aujourd'hui que sa volonté de faire, du haut de sa 244e place au classement mondial de tennis, elle la doit à cette maladie bizarre qui lui a permis notamment de participer à l'Open d'Australie au mois de janvier dernier. Voilà. On peut faire du sport de très haut niveau en n'étant pas tout à fait comme les autres.
Ouais.
Voilà.
Très très belle histoire. Est-ce que vous avez on a peu de temps, mais allez-y Patrice.
Une petite brève de Covid, ça se passe au Québec. Vous savez ce que les policiers ont vu le soir après le couvre-feu ?
Non, c'est pas possible parce que tu es éloigné.
Eh ben oui, une femme qui promenait en laisse son amie. tout simplement.
Ah oui, oui, parce qu'on a le droit de promener effectivement un animal domestique.
Et sauf que ça n'est pas passé, donc
bien tenté, mais
il y a eu amende. Et je rappelle qu'en cas de récidive, l'amende peut grimper jusqu'à 6 000 $ au Québec. C'est les dollars canadiens, donc ça fait 3 800 €. Mais quand même.
On rappelle qu'on peut promener son compagnon ou sa compagne en laisse, mais c'est à la maison. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de l'émission avec Coach Cricri qui va nous parler de fessiers.
Michel Simès sur RTL, ça va beaucoup mieux. L'hebdo. RTL,
ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
Mais quand j'ai vu ses fesses, je suis devenu croyant. Tous mes vieux réflexes.
Quel dommage, Christophe, que vous n'ayez pas fait ça la semaine dernière, parce que le 13 mars, c'était l'anniversaire de Jean-Yves Lafesse. Alors, plus que jamais, aujourd'hui, on a gardé le meilleur pour la fin, puisqu'avec vous, on va parler donc du derrière, de la lune, du popotin, du joufle.
Et oui, et je vais vous donner un premier exercice, puisqu'on a dit qu'on allait tout faire pour essayer de les raffermir, les fesses, et qui est aussi bon pour les filles que pour les garçons. Vous vous allongez sur le dos, les jambes repliées, les pieds au sol, distants de la largeur de votre bassin. Vous
attends,
suivez.
Je le fais.
Oui, voilà, lentement,
allongez
lentement.
Sur le dos, jambes repliées, les pieds au sol, distants de la largeur du bassin. Vous inspirez puis expirer en soulevant les fessiers pour pousser le ventre vers le plafond et former un pont en appui sur vos épaules et sur vos plantes de pied. Vous serrez bien vos abdominaux, vous contractez votre haut du corps et vous tenez la position une vingtaine de secondes en inspirant et en gardant les fesses bien serrées.
Bien serrées, on a dit,
oui,
Patrice.
Non pas que vous couriez un danger particulier à ce moment-là, non, mais pour garder la contraction musculaire qui va vous donner le CD, le fameux CD.
Le CD, moi je ne l'ai pas, le CD là.
Le CD, c'est le cul dur, donc Emma, voilà. Ensuite, vous redescendez les fesses contre le sol et vous expirez évidemment en descendant et vous répétez l'exercice une dizaine de fois pour commencer, faites 5 ou 6 séries. Vous pourrez dépasser les 20 répétitions quand vous serez un plus à l'aise avec cet exercice.
Alors voilà. Ça, c'est un exercice très spécifique, mais est-ce qu'il y a des sports ou des appareils qui favorisent les belles fesses ?
Alors oui, il y a le step, vous savez, le petit caisson posé au sol devant vous et dont vous pouvez régler la hauteur. Vous vous positionnez devant et vous alternez en rythme des montées, des descentes, des pas de côté, des montées de genoux. Il y a très bon tuto sur le web, vous mettez un peu de musique, vous trouvez un rythme et vous y allez une trentaine de minutes. Vous faites ça une fois tous les deux jours, je peux vous garantir que vous verrez vraiment la différence.
J'ai pas de step à la maison, je fais quoi ? J'achète un escalier.
Non, mais sur l'escalier ou le trottoir, ça marche très bien. Alors, il y a un autre sport qui est pas mal, qui est plus classique pour le coup, qui est le vélo. Et pour favoriser le travail des fessiers à vélo, vous essayez, quand ça monte, par exemple, de bouger le moins possible les épaules et le haut du corps en appuyant sur les pédales. Et, autre exercice à vélo, vous essayez de vous mettre le plus souvent possible en danseuse.
Ouais. Voilà, c'est excellent. Ouais, alors, sans compter pour le coup que le vélo, on peut en faire autant qu'on veut, il n'y a pas de contre-indication. Le footing, est-ce que c'est bon pour les fesses ?
Alors, d'abord, le footing, c'est à peu près bon pour tout. Hein, on en parle suffisamment souvent, ça mobilise tous les muscles des jambes et donc les fessiers. Quand vous sortez, faites des exercices de montée de genoux pendant votre course, des talons-fesses aussi, des petits pas très rapides. En fait, vous essayez d'insérer dans votre sortie tous ces exercices qui vont vous faire travailler l'explosivité. Ils auront sur vos fesses l'effet du soleil sur le béton fraîchement coulé.
Et puis, c'est beau quand vous parlez.
Il y a les cours d'abdos-fessiers. Ouais. Est-ce que c'est vraiment bon pour muscler les fesses ?
C'est très bon. C'est même excellent.
C'est quoi les abdos fessiers ?
Et c'est des cours spécifiques où on isole les exercices pour travailler et les abdos et les fessiers.
Ah d'accord, voilà. Parce que je ne comprenais pas sur le plan anatomique pourquoi on avait des abdos dans les fesses.
Vous êtes trop médecin en fait. Voilà, alors vous essayez de tenir le rythme d'un cours un jour sur deux la semaine avec au moins une fois dans le week-end. Pour terminer, je rajouterai aussi d'autres exercices. Hein. Classique que vous connaissez certainement, les squats, les fentes avant, et celui que j'appelle le coup du pied de l'âne. Vous levez une jambe vers l'arrière tendue, comme le ferait un âne pour donner un coup de sabot, et vous revenez dans votre position de départ. Hein. Vous voyez, vous tendez la jambe
mais
derrière
juste
vous.
Avec de l'élan ou faut
non,
la maintenir
juste,
un
vous,
peu
vous la maintenez un petit peu, puis vous passez à l'autre jambe, vous tenez un peu la position et vous redescendez. Et vous faites comme ça, 15-20 répétitions. C'est
en
simple.
En évitant de cambrer. De
exactement.
Trop,
hein, ouais. Il faut toujours bien serrer les abdos et essayer de tenir son dos le plus droit possible.
Ça importe aux hommes autant qu'aux femmes de travailler ses fesses ?
Non mais
je vous pose la question.
Non mais déjà,
vous
pour la déjà pour la posture, premièrement. Deuxièmement, contre le mal de dos. On dit souvent que les lombaires souffrent du haut du dos, mais peuvent aussi souffrir du bas du dos. Et ce qui est quand même, je sais pas si vous avez remarqué, Emma, mais dans le bas du dos, c'est juste les fesses.
C'est pas loin, c'est pas voilà. Loin. C'est
et
pas
puis quand vous asseyez aux toilettes, c'est plus agréable d'avoir des fesses bien rembourrées. Ça fait moins mal.
Ou quand vous asseyez tout court. Voilà.
Les amis, avant de se quitter, un petit mot, une brève, quelque chose.
Moi, j'ai une brève de Covid encore. Ça se passe à la boule. Non, mais c'est un gars qui fait son footing le long de la plage après la bonne heure, quoi. donc ouais. Les flics le rattrapent, le gars se réfugie sur la plage, les flics descendent sur la plage, qu'est-ce qu'il fait? Il se jette à l'eau. Et alors là, la police dit il était à plus de 200 mètres du large, donc nous on a cru qu'il était mort. Parce que, bon. Et en fait le gars c'est un triathlète. Ils ont sorti les hélicos, les machins, tout ça. Finalement le gars est rentré chez lui et c'est son épouse qui a appelé la police pour dire arrêtez avec les hélicos, les drones et tout. Il est rentré à la maison. Bon, comme elle a appelé, du coup ils sont allés chez lui et il a pris quand même son amende de 135.
Et puis alors voilà. S'il a payé tout ce que ça a coûté en hélico et tout, ça doit être sympa. Emma, une petite brève pour terminer.
Alors écoutez, pourquoi pas? Pourquoi la césarienne s'appelle-t-elle ça, comme ça,
c'est, ça enfin, elle s'est prise au dépourvu.
C'est le temps de chercher.
Ouais, mais elle s'en sort bien. Elle s'en sort bien.
À cause de Jules César?
Non. Alors ça, c'est ouais, il y a ce mythe là.
C'est quoi? J'ai pas compris la question.
Pourquoi
pardon.
La césarienne s'appelle-t-elle comme ça?
Ah bah oui.
Donc il y a en effet le mythe selon lequel l'empereur Jules César serait né ainsi et aurait donné son nom à la pratique. C'est pas sûr. C'est même peu probable parce qu'à l'époque on le faisait sur des femmes décédées. Il y a des témoignages.
Il y a l'élève Michel Simès qui lève le doigt.
C'est parce que César, Césaré, ça veut dire couper.
Ah bah oui, ouais,
c'est ça. Ah, oui. En latin. Ouais, il m'a tout cassé mon truc. Voilà. Il y avait une troisième option. C'est le nom de la loi romaine qui autorisait la pratique à l'époque sur les femmes enceintes décédées qui s'appelait la Lex Caesara. Mais la vôtre, c'est quand même la plus probable.
Merci les amis. Merci chers auditeurs de nous suivre chaque semaine. On vous retrouve bien sûr dimanche prochain à 9h15 avec la petite bande.
Salut à toutes
et
à tous.
Au revoir Michel.
Ciao.
Salut.
Michel Simès sur RTL, ça va beaucoup mieux. L'hebdo.